Alors, ce que je propose maintenant, comme je l'ai dit, c'est que peut-être Pascal Bourguin et Karlheinz Stierle reviennent à la tribune pour marquer la généralité de la discussion et que nous reprenions tout ce que nous avons vu depuis ce matin, qui était à la fois très différent et qui convergeait. Vous vous rappelez que nous avons commencé avec Pascal Bourguin et cette situation du latin dans le monde médiéval, ce latin, Karl-Heinz, qui n'est pas une, qui n'est pas une langue étrangère, qui n'est pas une lingua peregrina, mais que l'on domine mal, et, ou quelquefois mal, et avec cette tension qui existe déjà au Moyen Âge entre langue maternelle et langue paternelle. Le contraste entre le jeu sur les deux expressions, le contraste entre les deux expressions, se trouvant à cette époque chez plusieurs auteurs, et, mais je parle sous le contrôle de Pascal Bourguin, dans des contextes quelquefois où il n'est pas absolument évident de savoir quelle est la langue paternelle, par exemple, et pourquoi elle est désignée comme langue paternelle. Nous avons vu ensuite, avec Karlheinz Stierle, cette grande ambition de restauration de la latinité chez Pétrarque, mais qui s'accompagne de cette poursuite de fragments qu'il suit, qu'il assemble jusqu'à son dernier souffle. Il nous a dit ces fragments en langue vulgaire, dont il n'ignore pas qu'ils constituent une sorte de noyau dur de son œuvre et qui sont comme une sorte de parallèle et de contraste avec ces fragments par excellence qui sont les restes de l'Antiquité classique qu'il essaye de retrouver. Et puis, Claudina Roche, donc c'est encore tout frais dans notre esprit, c'est à la fois enfin, ce contraste entre l'analyse terrible que fait Appenfeld de la situation des Juifs germanophones rescapés de la Shoah et en face l'analyse de la langue totalitaire vue par Clem Parard et vue par Orwell, avec en contraste avec la langue totalitaire, cette langue de l'intimité, cette langue de la découverte de l'autre et de soi-même, cette langue de l'apprentissage de soi dans la tendresse, qu'est la langue maternelle. Et puis, l'illustration avec Jacques Le Rider de la façon dont de grands écrivains, de grands intellectuels, des hommes qui n'ont pas été, enfin, au moins Kanti au début de sa vie, n'ont pas été particulièrement brimés eux-mêmes d'une certaine façon, mais comment, d'une façon d'autant plus dramatique, ils ont vécu, ressenti, écrit, intellectualisé, ressenti cette difficulté. Et donc, maintenant, la parole est à qui la souhaite, et Federico sera assez gentil pour promener le micro. Jacqueline Cerchiglini-Toulet. Donc, Jacqueline Cerchiglini-Toulet, tout le monde connaît, mais enfin, au cas où, professeure à l'université de Paris-Sorbonne.
Merci. À écouter Pascal Bourguin et Claudina Roche, j'ai le sentiment que ces conférences nous proposent un critère pour répondre à une des questions qui nous préoccupe, à savoir qu'est-ce que ma langue? Et que ce critère serait peut-être la langue que je peux enrichir. Alors j'aurais aimé avoir le sentiment des deux conférencières sur une des suggestions que j'ai tirées à leur écoute.
qui commence.
C'est une très belle définition. Effectivement, ma langue, c'est celle devant laquelle je me sens en position de pleine entente et de créativité. Et donc, on peut l'enrichir. On peut voir dans le temps, tous les moments où on n'a pas pensé, où ça faisait problème ou pas, c'est le haut Moyen-Âge, on ne pensait pas trop, les moments où, dans les milieux grammaticaux, on a essayé de ne pas trop insérer de choses qui n'étaient pas latines, hein, et de revenir à des normes, et puis les moments où ces normes assimilées, on est reparti sur une créativité forte, et je pense au moment du XIe au XIIIe siècle. Ensuite est revenue une certaine crispation à cause de gens comme Pétrarque, qui avait un latin extraordinaire, mais extrêmement contrôlé. Et c'était pourtant sa langue aussi, nous l'avons entendu. C'était sa langue, et il est probable qu'il était, même, en tout cas pour écrire, plus à l'aise que dans les différents vulgaires qu'il maîtrisait fort bien dans le cas de l'italien, nous le voyons, mais qu'il pouvait parler. Alors, je pense que ce critère, effectivement, de la langue qu'on ne craint pas d'enrichir, distingue par soi-même, distingue effectivement la grammatica telle qu'elle a été conçue au cours des siècles médiévaux, c'est-à-dire une langue qui est fixée, qui est donnée, qui est utile, dont on se sert, dans laquelle on écrit, mais dont on essaye de ne pas sortir. Et la même grammatica, mais c'est-à-dire le latin, qui est utilisée comme une langue de création, et avec des créations de fait, depuis le Xe siècle au moins, mais même avant, mais elles étaient plus inconscientes, et puis des créations assumées à partir du XIIe siècle, disons du XIIe au XIIIe. Mais cela me semble une excellente approche.
Claudine, attends, appuyez.
Puis là, d'accord. Pardon. Bon, moi, j'ai trouvé aussi votre question passionnante et votre réponse également très intéressante. Et je trouve très intéressant d'avoir vu le lien entre les deux, apparemment très distant. Ma langue, c'est celle qui me permet de parler, d'exister, de prendre la parole, mais de prendre la parole pas dans la surdité, c'est-à-dire pas dans un flot ininterrompu. C'est celle qui me permet aussi d'être entendue et de faire une place à l'autre, non pas par les normes, mais peut-être aussi par le plaisir de la créativité, par la sensibilité, le besoin de l'autre dans la langue, qui n'est pas uniquement limité, bien entendu, à la mère. Pour moi, la mère est au départ, mais en aucun cas ne se maintient ensuite dans la langue. Elle est au départ comme condition d'acquisition de la langue et de la pensée et du rapport à l'autre. Donc, il y a toute cette dimension d'enrichissement, effectivement, de plaisir, de jubilation, de jeu et de construction de soi et de possibilités aussi, comme je me suis efforcée de le dire à la fin de mon propos, de reconstruction de soi, c'est-à-dire les choses sont, comment dire, ouvertes, elles ne sont pas finies, fermées, déterminées. Je crois que cette question de l'enrichissement et de l'appauvrissement, en particulier aujourd'hui, est extrêmement importante, parce que si on ne peut pas s'exprimer avec des mots, des nuances, et beaucoup de richesse dans le vocabulaire, il y a quelque chose. On peut effectivement penser à des formes de minimalisme dans l'expression, mais on peut aussi penser à des formes de pauvreté qui, comment dire, induite par la rapidité, le changement permanent, l'accélération, les clichés, la façon de s'exprimer par cliché. Donc, je crois que c'est des questions très, très importantes. Et surtout, ce que je redoute beaucoup dans l'idée de ma langue, c'est la coupure d'avec les autres, c'est-à-dire une espèce de revendication identitaire narcissique qui est extrêmement présente aujourd'hui, qui n'est pas du tout tournée vers l'ouverture et la générosité et l'écoute, mais beaucoup plus tournée vers une espèce d'expression continue de soi dans la surdité de l'autre. Voilà. Bon, mais j'arrête parce que je ne veux pas être trop longue.
Finalement, il me semble que c'est la formule de Jacqueline couvre en effet assez bien tout ce qui s'est dit depuis ce matin, parce que une langue que je peux enrichir, c'est une langue sur laquelle j'ai des droits. Et j'avais remarqué, alors comme le faisait remarquer ensuite Pascal, sa position n'est pas la position commune du Moyen Âge. Mais ce que dit Dante de la grammaire du latin par opposition à la langue vulgaire qui est plus noble, c'est cela. Hein. Face à la grammaire qui est figée, il y a cette langue qu'on peut enrichir et ce qu'on a le droit de manipuler. Mais on l'a vu dans le cas de Pétrarque, lui a de doubles droits d'une certaine façon, me semble-t-il. Je parle sous le contrôle de Karl Heinz, parce qu'il à la fois l'effort de restauration du latin fait qu'il s'approprie un latin dont il peut faire un modèle face au latin affreux que parlent les Français ou qu'écrivent les Français, par exemple, et face au toscan, eh bien, il peut purifier ensemble le toscan de Dante. Mais on l'a vu encore bien plus cet après-midi, puisque le problème de ces écrivains juifs ou de ces juifs tout court, c'est de ne pas pouvoir enrichir une langue parce qu'ils n'ont pas le sentiment d'avoir des droits sur la langue ou parce qu'on leur a retiré tout droit sur la langue comme tout droit en général. De sorte que, effectivement, c'est une formule qui est, me semble-t-il, très éclairante pour ce que vous avez vu. Mais enfin, excusez-moi, je parle tout le temps sans avoir rien à dire. Oui, Pascal.
Moi, je voudrais parler, alors, on a beaucoup parlé de juifs avec leurs problèmes linguistiques cet après-midi. Il y a des juifs qui ont écrit au Moyen-Âge. Et du moment qu'ils étaient convertis, ils écrivaient en latin. Alors, est-ce que c'était pour eux une frustration ? En entrant dans la civilisation occidentale qui était chrétienne, ils prenaient aussi le latin. Et, bon, il y a Guillaume de Bourges, il y a Pierre-Alphonse en particulier, il pense qu'il peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose avec sa richesse, qui est la richesse de sa civilisation. Il va raconter, dire qu'il peut raconter des histoires et une façon de sagesse qui n'est pas utilisée par les latins et qu'il va prendre donc dans sa propre culture et qu'il passe en latin. Il joue un rôle de passeur dans lequel je vois, moi, une sorte... Je ne lui vois pas de contrainte. Alors, il y a des gens qui le lisent en disant c'est une souffrance parce qu'on l'a obligé à se convertir. Bon, là, je ne sais pas si quelque chose peut dire qu'on l'a obligé à se convertir. En tout cas, il écrit un ouvrage qu'on considère comme un recueil de contes, qui est un recueil d'aphorismes de sagesse, dans lequel il dit nommément, il dit plusieurs fois, « Cela vient de ma culture et cela vous manque. Hein ». Cela vous manque et maintenant vous allez pouvoir l'avoir. Et il le fait en latin parce que c'était la seule façon de faire.
Oui, j'aurais envie d'apporter ma contribution aussi à cette définition tout à fait suggestive de ma langue comme la langue que je peux enrichir en insistant sur le fait que, par exemple, Kafka est témoin de deux langues maternelles où l'écrivain enrichit sa langue maternelle. C'est le yiddish en pleine renaissance culturelle qui sort du statut de langue parlée pour devenir une langue écrite, une langue littéraire, et où donc chaque écrivain est un codificateur. Et c'est le tchèque qui se trouve lui aussi dans la situation d'avoir à s'affirmer comme une des langues européennes de plein droit. Par exemple, à l'université tchèque de Prague ou en littérature. Et donc, face à ces situations de véritable langue maternelle qu'il envie, qu'il jalouse d'une certaine façon, Kafka a l'impression, au contraire, d'être dans une langue qui le fait souffrir par son excès de richesse. C'est la langue allemande portée au comble de sa perfection et de sa maturité par Goethe, qui est pour Kafka, comme pour toute sa génération, la référence indépassable et face à laquelle Kafka a l'impression d'une richesse qui n'est qu'usurpée lorsque lui, écrivain juif allemand de Prague, s'en saisit, comme il dit, comme s'il avait volé l'enfant allemand au berceau comme un tzigane.
Merci. Alors, Karl-Heinz Stierle et ensuite Lino Leonardi.
Je voulais faire une toute petite remarque qui m'est venue en écoutant les conférences de cet après-midi. On a vu clairement combien ce sujet qui nous réunit est fructueux. Pourtant, je me permets la question, est-ce qu'il y a vraiment une sorte de langue mienne ? C'est-à-dire, dans le sens de Schiller, qui a dit « spricht die Seele, so spricht auch schon die Seele nicht mehr ». Si l'âme parle, hélas, elle ne parle déjà plus. C'est-à-dire, chacun qui fait l'expérience de la langue la fait nécessairement en s'éloignant de la langue maternelle. La langue dont nous disposons n'est plus la première langue que nous recevons de nos mères, mais nous la recevons d'une société qui a déjà avant nous formé une langue qui, après nous, sera toujours une langue, qu'elle soit enrichie de nous ou qu'elle ne le soit pas. Et je crois qu'il y a une sorte de, si l'on veut, de drame fondamental de la langue, profondément éprouvée justement par Dante et par plusieurs raisons, par spéculation théologique, mais aussi par expérience personnelle qui renie justement Dante à l'expérience de l'exil, surtout des Juifs allemands dans le Troisième Reich. Parce que Dante, lui aussi, a fait l'expérience de l'exil qu'il a rendu au silence. Et il fallait un courage extraordinaire pour, dans cette situation, reprendre la parole, pour refaire le toscan, qui n'était pas le toscan de tous les jours, qui devenait la langue de Dante. Et je crois que c'est une expérience fondamentale, n'est-ce pas, cette expérience de se donner à une langue et d'avoir en même temps l'expérience d'une perte de langue. Seulement, dans ces cas extrêmes, elle est poussée aussi à l'extrême. Et je dirais en allemand, pour Kafka, c'est un peu la même souffrance qu'a dû éprouver aussi Kleist, qui se sentait devant l'allemand comme quelqu'un qui avait une peine excessive à s'exprimer dans cette langue, à ne pas se sentir aliéné par la langue même. Et je crois donc que c'est ce problème, n'est-ce pas, de la langue mienne. Elle n'est jamais mienne parce qu'elle se soustrait à moi et je dois la suivre, je dois devenir moi en m'exposant dans la langue et puis en me reprenant contre la langue.
Je donne tout de suite la parole à Lino. C'est tout à fait vrai. Il y a un problème général qui est que la langue est à la fois un bien commun et un bien propre. C'est pour ça qu'aucune langue n'est vraiment à soi. Et le problème particulier, l'exil de Dante a été très très douloureux. Ce n'était pas exactement la même chose que le sort des Juifs au moment de la Shoah. Mais la dépossession, ce que je pensais en écoutant les citations d'Appenfeld, la dépossession de l'allemand était quelque chose de particulièrement terrible, justement parce que ces Juifs se sentaient tellement de langue allemande, avaient tellement aimé l'allemand. Et on peut le comprendre, même des Français peuvent le comprendre, à travers un roman, qui n'est pas un roman de premier ordre, mais qui a exercé une grande influence, qui est Zilbermann, de la Cretelle. Et dans Zilbermann, on voit Zilbermann, le brillant élève juif du lycée Henri IV, dire « Mais je suis plus français que vous tous parce que tous ces auteurs français, je les comprends mieux que vous, je les aime plus que vous, je sais mieux les expliquer que vous. Alors, ils sont à moi. Et vous ne pouvez pas me les retirer. » Eh bien, très visiblement, très évidemment, c'était la réaction, ou ça a été la réaction avant d'être détruit, même s'il n'était pas tué, des Juifs allemands au moment du nazisme. Mais excusez-moi, alors, Lino Leonardi, professeur à l'université de Sienne.
Ce que je voulais dire a quelque chose à faire peut-être avec la citation de Schiller que vous venez de faire, parce qu'à propos des fragmentats du titre de Pétrarque, parce que je me demande si, plutôt qu'une référence au fragment de la culture, du marbre de la culture classique, ce mot si significatif du titre n'a pas à faire, comme le suggérait Francisco Rico dans un article de sa jeunesse, avec ce dernier passage du Secretum, où Pétrarque parle de son propos de recolligere sparsa anime fragmenta. Et c'est quelque chose qui revient dans les premiers vers du fragmenta, les rimes sparses. Parce que là, je trouve que c'est justement parce que le livre, c'est le livre de son âme, que la langue vulgaire s'imposait. Peut-être parce que, justement, pour Pétrarque, ce n'était pas sa langue. On a les autographes de Pétrarque, on a aussi quelques pages de ses ébauches des poèmes en langue vulgaire. Il y a des notes dans les marges où il parle avec soi-même, et ces notes sont en latin. Là où il dit « non satis triste principium », ou là où il dit « on m'appelle à dîner et je dois interrompre », tout ça, c'est en latin. Donc, mais la langue vulgaire, c'est quelque chose quand même qui peut-être s'imposait là où il faut recolligere fragmenta anime. Et peut-être aussi, il y a là dans les titres une référence presque obligatoire à l'autre titre, l'unique peut-être avant Pétrarque, où on parle de vulgare, c'est-à-dire de vulgari, parce que la confrontation avec Dante pour Pétrarque, c'est toujours là, toujours un peu masqué, mais quand même très présente. Et aussi pour Dante, Michel Zinck, vous avez montré très bien ce qu'il dit sur la langue vulgaire par rapport au latin. Vous avez glissé sur l'énumération de tous les différents dialectes d'Italie, mais là justement c'est un point que je trouve doit être remarqué, parce que cette langue noble, vulgaire, n'existe pas. Et donc, quelle est la langue où, dans laquelle Dante écrit sa comédie? En fait, on ne le sait pas, on n'a pas d'autographe. Il faudrait aussi, je crois, prendre en compte le fait que tous ces auteurs du Moyen-Âge vulgaire sont très conscients du fait que l'état de langue spécifique de leur texte ne va pas survivre, va être changé immédiatement, va se perdre. Donc là aussi, il y a un statut qui n'est pas si strictement lié à la langue maternelle, à la langue personnelle, c'est quand même un niveau des langues littéraires, et donc peut-être ce n'est pas quand même ma langue, la langue dans laquelle j'écris mes œuvres, quoique ce soit des œuvres en langue vulgaire.
Si, vous avez mille fois raison. Anna Maria Babé, professeur.
Oui, moi je voulais ajouter quelques suggestions à ce que Claudine Roche a dit à propos de Appenfeld, parce que je l'ai invitée il y a quelques années au moment de la traduction italienne de ses mémoires. Et donc, au moment de la présentation, justement, il a souligné les longs moments de silence, comme vous avez dit, mais aussi le fait qu'il n'avait jamais pensé, comme il est dit d'ailleurs dans ses mémoires, à écrire. Donc, l'esprit créateur est arrivé avec la nouvelle langue qu'il a appris. Avant, il n'avait jamais pensé sur ce point. Donc, merci beaucoup d'avoir rappelé ce...
Je peux faire un commentaire à ce que vous venez de dire. Je pense que vous avez tout à fait raison. Je crois que ce qui a été terrible dans le cas d'Appelfeld et dans bien d'autres cas aussi, c'est la mise au silence, la stigmatisation, la dégradation, l'humiliation profonde, la déqualification profonde. Et il me semble qu'on peut difficilement poser la question de la langue sans parler du rapport à la langue et du rapport de l'individu et de la place du sujet, du soi, du moi dans la langue et du rapport à l'autre. Il y a une espèce de tout comme ça. Et effectivement, il a pensé, Appelfeld, vous me corrigerez si je me trompe, il a pensé qu'il pouvait écrire directement sur son vécu. Et puis, il s'est très rapidement, il a très rapidement renoncé parce qu'il n'écrivait que des choses triviales, extraordinairement ennuyeuses. Et il y a des éléments de son vécu dans tous ses romans qui sont extraordinaires, mais c'est les conversations avec Philippe Roth qui ont eu lieu pendant des années. Ils marchaient pendant des années ensemble à Londres, à New York, à Vienne. Et justement, Philippe Roth l'a amené à se déprendre de ce soi mis au silence pour arriver, en racontant des histoires autres que la sienne, mêlées d'éléments biographiques de ce qu'il avait vécu, à pouvoir écrire dans une autre langue. Et c'est pour ça que je voudrais ajouter quelque chose aussi, faire un commentaire à ce qu'a dit tout à l'heure Pascal Bourguin, qui me paraît très intéressant, sur la question du passeur. Et je crois que c'est lié à la question de la confusion aussi entre l'enfermement dans une langue, l'authenticité et le moi. C'est-à-dire qu'on peut dire beaucoup de choses dans une langue qui n'est pas la sienne, ou dans une autre langue, de même qu'on peut dire beaucoup de choses en racontant d'autres vies que la sienne. Enfin, je reviens toujours sur cette idée. Voilà.
Merci. Ursula Beller, qui est professeure à l'Université de Zurich.
Merci beaucoup. Alors, je vais peut-être commencer par mon parcours personnel, parce que je suis donc suisse, et ma première langue est toujours le suisse-allemand. Deuxième langue, c'est le haut-allemand. Et la troisième langue, c'est le français. Et Madame Haroche, je pensais, vous avez évoqué la différence entre la langue maternelle, ce qui coule de source, et les autres langues qui seraient plus fixes, plus figées peut-être pour les individus qui les ont appris. Et moi, c'est vrai que je remarque de plus en plus qu'en allemand, je configure de manière différente le monde et les textes. J'ai une approche beaucoup plus synthétique, alors qu'en français, quand j'analyse des textes en français, j'ai une approche beaucoup plus analytique. Et pour moi, c'est ça, en fait, dans mon parcours personnel, cette différence. Enfin, s'il y a une différence entre les langues, c'est surtout celle-là. J'ai quelque chose de synthétique, et en français, quelque chose de beaucoup plus analytique, qui me permet parfois de voir plus peut-être que ne voient les gens de langue française, qui sont de langue maternelle française, dans les textes littéraires justement. Alors qu'en allemand, j'ai le même réflexe, je lis ça en bloc. Et je suis beaucoup moins susceptible, beaucoup moins sensible à des différences, à des nuances, à des degrés qui seraient porteurs de signification et de sens. Voilà, donc c'est un atout aussi, je crois, dans cette perspective-là. Voilà, c'est une remarque tout à fait personnelle.
Non, je pense qu'elle n'est pas tellement personnelle. Moi, elle me fait penser à Freud, à l'inquiétante étrangeté. Elle me fait également penser à la situation, comment dire, contemporaine où on est, parce que j'écoutais ce que disait ma voisine tout à l'heure, c'est-à-dire à un moment où l'individu était moins important et confondu avec sa langue et en mise en demeure de dire des choses très intimes sur le soi, l'espace personnel, l'espace de l'intime, il y avait des formes de la médiation ou des langues constituées qui faisaient qu'on pouvait s'y inscrire sans les considérer comme ma langue, la mienne. Et je crois que, comment dire, quand je dis la langue, quand je rappelais le propos d'Appelfeld sur la langue qui coule, c'est la langue qui coule quand l'enfant est petit au départ. Ce sont les conditions d'acquisition de la langue et de la pensée. Ce n'est pas ensuite l'exercice de la langue. Je crois que ça renvoie aussi à autre chose, le découpage dans les langues, le découpage de la réalité. Les modes de perception sont différents. Il y a des mots qui existent, comme les traducteurs le savent bien, il y a des mots qui existent dans certaines langues et il y a des mots, des nuances qui n'existent pas dans d'autres langues. Et c'est tout le travail de la traduction.
Merci. Qui souhaite... pardon, Luciano... Luciano Rossi, professeur à l'université de Zurich. Ah, pardon, oui, et ensuite, oui, alors, excusez-moi, Daniel, vous passerez après. Bon. Et ensuite,
j'aimerais poser une question à Madame Bourguin, puisque j'ai cette possibilité, et elle est peut-être pas pertinente, mais chaque fois que je me penche sur ce miracle qui est la consolatio philosophiae de Boès, je suis confronté à une langue qui est tout à fait classique, mais qui en même temps est, comment dirais-je, ambiguë, dans la mesure où Boès est capable d'innover et surtout on reste sur sa fin quand on se pose des questions quant à la philosophie, d'où ça vient finalement, est-ce qu'il connaissait le grec ou je ne sais pas.
Il est certain que Boès connaissait le grec, puisqu'il a fait beaucoup de traductions. Sur le plan philosophique, je n'oserais pas vous répondre. Il a cherché, dans la Consolation de philosophie, à exprimer une pensée de façon extérieure à ses convictions religieuses, et donc selon un mode littéraire qui... pouvait se rapporter aux exposés philosophiques antiques et notamment grecs. Par mythe, hein, par prosopopée, et surtout avec cet extraordinaire mélange de prose et de poésie qui lui permet d'exprimer des choses différentes en ayant l'air de dire la même chose. Pour ce qui est de la langue, il est bien évident que cette langue qu'il veut classique, il ne le dit pas classique, c'est le latin tout court, c'est celle de toutes ses lectures, est malgré tout contemporaine, qu'il y a d'un ordre des mots malgré tout, qui, bien qu'il soit relativement classique, est en train de glisser légèrement, et puis surtout qu'il a, comme tous les latins de l'âge classique d'ailleurs, il est bilingue, alors lui bilingue latin-grec, puisqu'il n'y a pas eu avant le IVe siècle de littérature de gens qui ne parlaient que le latin. Ils étaient tous bilingues. Donc il y a peut-être une plus grande, parce qu'il parle de philosophie, une plus grande imprégnation de certaines tournures grecques qui sont aussi en train d'entrer dans la langue par le latin patristique et les traductions des textes du christianisme. Ça donne des petites différences. Peu, parce que c'est une langue très contrôlée. Et dans cette langue très contrôlée, mais vivante, parce que s'il écrivait exactement comme 4 siècles avant, ce serait une langue morte. Il a donc essayé de donner sa pensée profonde selon un mode philosophique inspiré également de ses lectures, tout en étant très personnel. Je ne saurais vous en dire plus sur sa philosophie.
Merci. Daniel Heller-Roazen, professeur à l'Université de Princeton.
Merci. Je voudrais juste souligner l'intérêt d'un concept et d'un nom qui ont été énoncés cet après-midi par Monsieur Le Rider, c'est le nom ou le concept de jargon qui me semble particulièrement intéressant étant donné notre thème, puisque le jargon c'est quelque chose qui ressemble à une langue sans en être une. Et au-delà du fait que le jargon aussi est d'invention médiévale, c'est-à-dire qu'on retrouve le jargon déjà chez Marie de France et chez Charles d'Orléans entre autres. Où il désigne quelque chose qui ressemble à une langue ou un langage, on ne sait pas bien, il me semble que le jargon nous permettrait peut-être d'éclaircir certaines des ambiguïtés dans l'usage de langue. Monsieur Le Rider est parti du célèbre texte de Kafka sur le jargon, qui est évidemment un texte qu'on traduit comme un texte sur le yiddish ou bien comme le judéo-allemand, puisque jargon, c'était un nom courant dans l'allemand de son époque, pour ce que nous, on considérait plutôt comme une autre langue. Et donc le jargon, dans ce cas, semble indiquer quelque chose qui serait une langue étrangère, si ce n'était pour le détail que Kafka rappelle que le jargon se traduit dans toutes les langues d'Europe, sauf dans l'allemand. Donc il y a un effet de voisinage à l'allemand qui fait que le jargon reste en quelque sorte intraduisible ou quelque chose de moins qu'une langue à part. Pour nous, en général, dans le lexique moderne, on aurait tendance à penser que le jargon, c'est de l'ordre, je crois, de ce qu'on appelle une langue spéciale, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas une autre langue, mais une langue, un vocabulaire, un lexique bâti à l'intérieur d'une langue. Qui n'a pas de morphologie, qui n'a pas de phonologie, qui a peut-être une syntaxe, qui a sûrement des lexèmes, mais qui n'est pas une langue à part. Et la question m'est venue aussi à l'esprit en écoutant la communication de Madame Laroche, de savoir si Novlangue et la LTI, ce sont des langues ou bien des jargons, et s'il serait intéressant de distinguer entre les langues et les jargons en ce sens. On peut aussi aller plus loin et remonter à ce matin pour ce qui concerne la grammatica dans l'acception de Dante. S'il est vrai que la grammatica que connaît Dante est une langue artificielle, c'est-à-dire qui n'est pas la langue maternelle qui a été inventée, est-elle une langue ou un jargon ? Ou plus généralement, on pourrait se demander si un langage artificiel relève plutôt de l'ordre des jargons ou des langues.
C'est vrai que
Cette question du jargon est extrêmement riche et complexe. D'abord parce que en allemand même coexistent dans les discours littéraires, les discours savants de l'époque, le mot venu du français jargon et le mot Maoscheln que les Français, lorsqu'ils traduisent, traduisent par jargon. Et en réalité, ce n'est pas tout à fait la même chose. Lorsque, par exemple, dans Freud, les études sur l'hystérie, il dit cette patiente, dans certains moments de crise, passe au jargon. Je crois que c'est Anna O. Et tantôt elle passe à l'anglais, tantôt elle passe au jargon pour dire ce qui, dans sa langue de culture, dans sa langue de censure culturelle, d'autocensure, elle ne pourrait pas dire. Donc ce qu'elle ne peut pas dire, ce qui ne se dit pas en allemand, Anna O, si c'est bien elle dont parle Freud dans les études sur l'hystérie, Anna O recourt à l'anglais ou au jargon, et le jargon, ça veut dire là, en l'occurrence, le yiddish, qui, dans cette famille de bonne bourgeoisie juive viennoise assimilée, est une langue vraiment presque taboue, enfin, comme un patois rural et misérable qu'on ne saurait parler quand on a le statut de bourgeois de culture à Vienne. Et puis, le Maoscheln est une notion extrêmement fluctuante et qui veut à la fois tout dire et qui ne veut rien dire. Je citais tout à l'heure le judaïsme dans la musique de Richard Wagner. Et je crois que le paradigme du Maoscheln tel qu'il est utilisé dans les discours antisémites allemands ressemble, peut s'expliciter de la même manière que la notion de musique allemande et de musique juive allemande chez Wagner. Pour quiconque d'honnête et de sensé, il n'y a pas de différence entre la musique de Handel et celle entre la musique de Mozart et celle de Mendelssohn. La différence est une construction purement idéologique, un pur fantasme. Et de la même façon, il n'y a pas de différence entre l'allemand d'un juif assimilé et l'allemand d'un non-juif à la même époque et dans la même ère géoculturelle. C'est une différence construite, une différence fantasmée. Et c'est d'autant plus intéressant que cette différence fantasmée se trouve, pour ainsi dire, c'est le mot qui me vient à l'esprit, qui est intériorisé, internalisé chez Kafka, qui en fait une sorte de thème d'auto-analyse masochiste, alors que M. Zinck le rappelait tout à l'heure tout à fait pertinemment, l'allemand de Kafka est le plus classique, le plus pur qu'on puisse concevoir. Kafka, lui, souffre et se torture parce qu'il a le sentiment de ne pas sortir du Maoscheln. Le Maoscheln est quelque chose d'imperceptible, d'invisible, qui échappe à toute analyse, à toute définition, qui n'est que préjugé, construction de stéréotypes, pure représentation. Et donc, vous avez mille fois raison de dire que cette réflexion sur le champ sémantique du jargon, à la fois en tant que jargon et en tant que Maoshen, est une des clés certainement de l'histoire culturelle de cette période entre la fin du XIXe siècle et le premier tiers du XXe siècle.
Merci. Excusez-moi, madame. Non, alors, madame.
Je voudrais simplement signaler un tout petit livre que vient de faire paraître le dramaturge Valère Novarina et qui s'appelle « Une langue inconnue ». Et il raconte qu'il avait une grand-mère hongroise qui ne parlait pas le hongrois, qui parlait un dialecte hongrois. Et quand il était enfant, il ne comprenait rien à ce qu'il disait, évidemment. Et c'est resté en lui comme une musique qui existe toujours, il l'entend toujours, et c'est le départ de toute son œuvre, de toute sa quête sur les dialectes, où il dit chaque mot, le dialecte pour dire un ruisseau, par exemple, n'a pas un mot, mais il a un mot pour dire le ruisseau calme, un autre quand il demeure, etc. Voilà, et toute son œuvre est partie de là. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Merci. Si je peux... Pascal...
J'aurais voulu rebondir sur la grammaire comme jargon, puisque vous en avez parlé. Quand on dit que la grammaire est une langue artificielle, nous tirons sur les mots. La grammaire, c'est un art. C'est un des sept arts libéraux. Donc, que certains grammairiens médiévaux aient tiré vers quelque chose qui, pour nous, pourrait être traduit par artificiel, c'est une conception dérivée. C'est d'abord un art, et puis elle est universelle parce qu'elle représente la faculté, enfin tout ce qu'il y a de rationnel dans la langue, et qui peut donc en faire un outil propre à véhiculer les produits de la raison humaine. Il y a trois grammaires. Ce sont les langues sacrées sont des grammaires. Donc l'hébreu est une grammaire. Le grec est une grammaire, le latin est une grammaire, mais en Occident, on ne parlera que d'une grammaire, donc, parce que c'est celle qu'on connaît, et c'est le latin. Alors certains en ont conclu, à cause de la théorie de l'imposition, c'est-à-dire le fait de décider que tel mot va vouloir dire quelque chose, telle notion va être représentée par tel nom, on sait bien que ce n'est pas la langue originelle, le latin. Donc, il y a eu un moment où on a dit, eh bien, la terre va se dire humus. Voilà. Et l'idée leur est venue parce que c'était une langue universelle, une langue rationnelle. Certains ont dit que c'est les grammairiens qui ont imposé un sens aux mots. Donc là, ce n'est pas l'idée de tout le monde, c'est l'idée de certains grammairiens, mais que l'on rencontre avec cette idée d'imposition qui donne, si vous voulez, une action à des gens qui sont une entité qui n'existe pas. Qu'est-ce que ces grammairiens qui ont dit un jour voilà comment on va faire, voilà quelles vont être les lois de la langue, ça n'existe pas. Là aussi, nous sommes au niveau du fantasme, hein, d'un fantasme explicatif. Le latin ne peut pas être la première langue, et s'il n'y avait pas eu des gens pour dire on dira telle chose de telle façon, qu'est-ce qui se serait passé? On s'est demandé quelle était la langue originelle. Alors, celle qu'Adam parlait au paradis, laquelle était-ce? Est-ce que c'est l'hébreu? L'empereur Frédéric II a voulu un jour en avoir le cœur net, et il a fait élever des enfants nouveau-nés donc, par des nourrices avec interdiction de leur parler pour savoir comment ils parleraient. C'est quelque chose qui se fait plusieurs fois et qu'en particulier Frédéric II a fait. Eh bien, la conclusion, c'est que des enfants à qui on ne parle pas, mais vraiment pas, ils meurent. Ils meurent. Il n'y a pas de communication possible. Il leur manque quelque chose et tous les gazouillis de la nourrice à l'enfant sont quelque chose d'absolument nécessaire et Frédéric II ne le savait pas. En tout cas, il ne sait toujours pas quelle était la langue originelle puisque ces enfants-là ne pouvaient pas vivre. Tous ceux qu'on a essayé d'élever ainsi sont morts. Ou alors ça devient des loups comme les enfants loups. Il y a un problème. L'enfant à qui on ne parle pas ne peut pas se développer lui-même. Mais donc, c'est de ces idées-là, du fait que, après tout, le latin n'était pas la langue originelle, qu'est venue cette idée que peut-être il y avait des gens qui devaient être des gens très bien, donc des savants, hein, donc des grammairiens, hein, qui avaient décidé que ce serait comme ça parce que l'ensemble était considéré comme quelque chose de rationnel. Et alors là, on a la grammaire modiste au XIIIe siècle qui veut prouver les très bonnes raisons de choses dont nous savons bien qu'elles sont en fait venues de l'usage. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire que cette grammatica, hein, qui est une... quand on appelle le latin ainsi, si vous voulez, c'est une reconstruction intellectuelle. Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est un jargon. C'est l'idée de la langue. L'idée de la langue dans ce qu'elle a de rationnel, c'est la grammatica. Et la grammatica a trois formes, dont en Occident, le latin, et donc il y a une équivalence grammatica-latin.
Merci. Si je peux... juste revenir un instant sur cette question du jargon que j'avais trouvé intéressante. Si j'ai bien compris ce que disait Jacques Le Rider, mais je me trompais peut-être, Marshall est nettement désobligeant. Et on recourt au terme français jargon parce que ça, c'est un peu euphémistique par rapport à Marshall. Et mais l'usage de jargon en français est pour désigner une langue qui existe mais qu'on ne comprend pas, soit une langue dont on ne veut pas que l'autre la comprenne, exemple le jargon de la coquille de Villon, hein, soit une langue qu'on ne comprend pas chez l'autre mais dont on sait qu'elle a un sens. Le latin effectivement n'est pas un jargon, mais quand on dit le latin des oiseaux, c'est qu'on sait que le langage des oiseaux a un sens, mais qu'on ne comprend pas ce que disent les oiseaux. Eh bien, vient une époque où, dans la poésie, on ne dit plus, comme au XIIe ou XIIIe siècle, le latin des oiseaux, mais où on dit le jargon, comme dans Ronsard, hein, déjà le rossignol doucement jargonné dessus l'épine assise à complainte amoureuse. Ce que dit le rossignol a un sens, on le sait bien, puisque c'est une complainte amoureuse. On voit très bien ce qu'on peut dire dans une complainte amoureuse. Seulement, dans le détail, on ne comprend pas le jargon. Et en ce sens, le jargon, c'est le contraire de l'effort pour parler une autre langue que la mienne. Désigner le jargon, c'est renoncer à entrer dans une autre langue. Et c'est par là que le jargon devient péjoratif, me semble-t-il. Giovanna Angeli, professeure à l'Université de Florence.
Pour enchaîner sur les jargons, alors c'est très banal ce que je vais dire là, mais c'est que effectivement, je ne peux pas ne pas rappeler donc l'épisode de l'écolier limousin, et là où effectivement donc les géants assistent imperturbables donc à tous les jargons que l'écolier limousin lui débite, donc que l'on veut citer Lutèce, etc. Donc c'est un latin non pas des cuisines comme on l'avait en quelque sorte non pas reproché, mais enfin ce matin nous avons eu cette jolie boutade de Madame Bourguin donc à propos du latin du Moyen-Âge, etc. Donc ce n'est pas un latin des cuisines, c'est plutôt c'est un latin jargonesque que donc les géants ne comprennent pas, et il finit par dire mais écoute, mais parlez chrétien, donc parler un bon latin ou bien parler une vraie langue, etc. Et quitte effectivement à suffoquer, à étrangler donc l'écolier limousin. Donc qu'est-ce qu'il parle? Il parle un jargon, il parle plutôt donc une espèce de latin qu'on dirait qu'on pourrait appeler de polyphilesque. Ce n'est pas du latin de cuisine, ce n'est pas un latin macaronique, pas du tout. C'est donc un latin totalement reconstruit, burlesque, etc., mais donc dont on considère que la racine est latine et la désinence est donc française. Il y a des exemples donc d'arablais de macaronique, mais là c'est vraiment cette espèce de jargon dont l'exemple sublime, disons, était celui du songe de Polyphile. Et donc simplement pour
Non, je n'ai pas grand-chose à dire, sinon que ce qu'on désigne généralement comme jargon, c'est souvent la langue propre à un métier, dans l'exercice de son métier, avec le vocabulaire du métier et les simplifications syntaxiques nécessaires. Et que donc, on a pu parler, dans certains cas, du jargon des juristes quand ils deviennent incompréhensibles pour les autres, et là, c'est le jargon des universitaires quand il devient incompréhensible pour un chrétien normal, voilà, puisque l'expression existe aussi en italien. C'est pourquoi je pense que, bon, chez Rabelais, c'est extrêmement parodique, mais cela repose sur cette réalité qu'il y avait des langues à l'intérieur du latin ou du latin tel qu'on le parlait, par exemple, autour de la Méditerranée, où il y avait une sorte de lingua franca qui n'était plus, enfin, qui était à la limite du latin, mais qui servait dans les échanges commerciaux. Ça aussi, c'était un jargon, hein, celui qui servait dans les échanges, un petit peu pidgin, si vous voulez, qui servait dans les échanges commerciaux autour de la Méditerranée. Et puis le latin des juristes, et puis il y avait un peu aussi, quoi qu'il était plus savant, le latin des médecins. Du moment qu'une catégorie socio-professionnelle surdéterminait une langue qui restait latine avec une utilisation qui l'obligeait à la transformer, on appelle ça un jargon. Et je pense que c'est cela, parodier, hein, qui apparaît à cette époque, mais qui existe. On peut parler d'un jargon sans que ce soit véritablement une façon de déprécier. C'est une langue spéciale.
Si, Karl-Heinz Stierle.
Une toute petite remarque. D'abord, pour le fragmentum, il me semble que le fragmentum animi, justement, réfère au rerum vulgarium fragmenta, c'est-à-dire à ces petits morceaux poétiques qui, d'abord, sont très dispersés et puis, dans un processus très long, deviennent des morceaux aussi d'une œuvre qui continue. Donc, je ne vois pas une très forte différence entre votre position et la mienne. Mais je voulais encore faire une petite remarque sur grammaire et jargon. Il me semble que jargon, c'est exactement le contraire de grammaire, parce que le jargon, en principe, n'est pas écrit. Il y a, par exemple, le jargon des écoliers qui, à l'école, doivent apprendre à écrire correctement, mais qui gardent leur langue à eux et qui sont bilingues. Mon fils, il était bilingue, il parlait un jargon terrible, et en même temps, il était tout à fait capable de participer à une conversation bonne et à écrire. Donc, grammatica, me semble, contient toujours cette idée de graphein, de l'écriture et d'une langue qui se prête à l'écriture, ce qui veut dire aussi une langue qui est conçue pour continuer dans le futur. Et justement, si on laisse derrière soi le jargon, quel que ce soit, c'est pour faire partie à cette société de langue qui a un consensus de créer des choses qui ont une continuité et qui valent la peine d'être écrites.
Y a-t-il encore des questions, des remarques, Madame? Pardon. Ah oui, excusez-moi.
Merci. C'est une question pour Pascal Bourguin. Vous avez fait allusion à la formation des prédicateurs en langue vernaculaire, à l'entraînement au sermon en langue vernaculaire. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer ce point qui m'intéressait particulièrement ? Merci.
Je l'ai pris dans les recherches de Nicole Berriou, évidemment, qui a trouvé des statuts d'un collège, je crois, de Troyes, qui prévoit, bon, tous ces statuts de collège sont évidemment passionnants, mais ils en disent plus ou moins. Et là, ces collèges, ces statuts expliquent que les étudiants doivent se trouver présents à des séances de formation où ils apprendront à s'exprimer en vernaculaire, ce qui est donc le but de la prédication. Il ne suffisait pas, parce qu'ils bâtissaient visiblement leur sermon en latin, ils les pensaient en latin, ils devaient pouvoir les prononcer devant un auditoire de laïcs. Et il semble que ce n'était pas si évident. À un certain moment, on s'est dit, mais ils ont une difficulté, on va les entraîner à la prise de parole, puisqu'ils le faisaient entre eux en latin. La prise de parole en langue vulgaire méritait aussi un entraînement. Ils en avaient beaucoup en latin, ils avaient les séances de dispute, ils avaient toutes les séances de colibette, ils avaient toute une série d'exercices scolaires. On leur a ajouté des exercices scolaires pour la prise de parole en langue vulgaire. Et donc, c'est... attendez, la référence, je peux... Bon, je vous la donnerai, je l'ai là.
Merci. Si il n'y a plus de questions, nous remercions à la fois les communicants, les intervenants pour cette discussion si riche et pour ces communications magnifiques, et nous faisons une pause en attendant, le soleil fumarolien qui se lèvera dans un instant dès que l'Académie française aura procédé, c'est le cas aujourd'hui, à une élection que nous espérons fructueuse cette fois-ci. Donc, en principe, Marc Fumaroli, qui dirige la séance, m'a promis d'essayer de faire vite, mais enfin, une élection. Et donc, il devrait être là dans à peu près un quart d'heure. Donc, nous avons une pause en l'attendant.